Dans cet épisode de My Big Fat Geek Podcast, je vous parle de Defenders, de James Bond, de Obi-Wan Kenobi et je réponds aussi à quelques questions qui m'ont été demandées via la page Facebook de Cinemax. Bonjour! La lumière de Cinemaniacs pour le My Big Fat Geek Podcast. Comme je disais à l'intro, on va parler un peu de différents sujets et je vais répondre aux questions aussi que j'ai reçues via Facebook. En premier lieu, Defenders. My God, j'ai regardé Defenders. J'ai malheureusement destiné beaucoup trop de temps à regarder la télévision et j'ai pris le temps de consommer la saison 1 de Defenders de Marvel sur Netflix. Et comment je pourrais bien dire ça? Je me suis presque endormi tout le long. J'ai trouvé du temps même à un moment donné pour faire des choses un petit peu plus intéressantes. Par exemple, faire la vaisselle ou plier mon linge tout en regardant la série jouer devant moi. Puis pour certaines personnes qui se demanderaient peut-être pourquoi j'aime pas Defenders et eux disent non, c'est bon, ça répond à toutes les questions des autres saisons de Iron Fist, de Daredevil, de Jessica Jones et de Luke Cage. Oui, mais pour moi, là, je pense que 90% du temps, on voit les personnages qui sont soit debout ou assis, mais qui sont dans une pièce et qui se regardent face à face et qui discutent de ce qu'ils devraient faire, ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils ont fait avant et pourquoi qu'ils vont le faire. En gros, c'est un gros meeting de près de 8 heures de temps où est-ce que les personnages font juste dialoguer entre eux autres et j'ai l'impression que c'est une perte de temps ultime tout le long de la série. Oui, il y a beaucoup d'explications, puis j'imagine que les fans qui voulaient beaucoup de réponses aux personnages ont reçu un peu ce qu'ils voulaient. Mais moi, en tant que tel, je regarde la série d'un point de vue vraiment divertissement, parce que je suis pas un fan vraiment de ces séries-là sur Netflix. Je suis plus un consommateur de films, surtout au cinéma. J'ai vraiment pas grand temps à regarder toutes les saisons de tous les personnages qui existent à travers toutes les chaînes disponibles, que ce soit du streaming ou de la télévision. Mais j'aurais aimé en avoir un petit peu plus pour un rassemblement de personnages de diverses séries dans une méga série. J'ai vraiment l'impression que ça livre pas la marchandise. Je pourrais vous dire que j'ai l'impression que cette façon de livrer ces personnages à l'écran sont mieux servis lorsqu'ils sont séparés, puisqu'on peut un peu plus pardonner un peu le fait que on s'attarde au développement du personnage et à son entourage un peu, la raison pour laquelle il est comme ça ou qu'il fait ça. Parce que là, dans un rassemblement où est-ce qu'on a 4 super-héros, disons-le comme ça, dans les bandes dessinées, ils sont considérés comme des super-héros. My God, j'avais l'impression de regarder une série budgétée à Télé-Québec. Je peux aller sur YouTube et regarder des fan films qui vont être qui vont mieux exploiter le côté super-héros de ces personnages-là, qui sont des super-héros de Marvel Comics. Ça s'en est réduit à un genre de série dramatique et endormante. Parce que pour moi, c'était un somnifère total. Je me sens emmerdé vraiment tout le long. Où est-ce qu'à un moment donné, je me rendais compte que je me parlais tout seul. Vraiment. Puis je me posais des questions, voulant dire, il va savoir de quoi. Puis à un moment donné, il y avait des scènes d'action. Oui, il y a quelques scènes de combat, mais rien de ce qui est dans le visuel révolutionnaire. Là. Il y a rien de ça. Là. C'est des bonnes prises de combat qui sont la plupart du temps cachées dans des pièces à moitié éclairées, assombries, éclairage mal foutu, afin de cacher un peu les chorégraphies de bas de budget de cette série-là. Alors, pour moi, je vous dirais, là, si vous êtes vraiment des fans, puis vous voulez vraiment, vous avez suivi toutes les séries sur Netflix, c'est sûr que je vous empêcherai pas de regarder, je vous dirai pas, regardez pas ça, mais je vous le recommande pas. En tout cas, moi, j'ai vraiment pas aimé, puis c'est sûr que si vous avez jamais regardé ces séries-là avant, c'est pas Defenders qui va vous faire aimer l'univers de Netflix avec Marvel. Alors ça, c'est pour The Defenders. Je voulais parler un peu vite de Stephen Colbert, le show où est-ce qu'il il a reçu Daniel Craig il y a pas longtemps afin de faire la promotion de Logan Lucky, le film de Steven Soderbergh qui revient au cinéma pour réaliser un nouveau film qui est un peu dans le même genre de Ocean's 11, 12, 13, qui est un ce qu'on appelle des heist movies en anglais. C'est des films où est-ce que t'as des vols, des vols de banque, une gang qui se met ensemble pour commettre un crime. David Soderbergh se spécialise là-dedans. Alors là, on est plus du côté sudiste avec Logan Lucky. Mais j'ai pas vu le film, donc je vais pas vraiment parler de ça. Ce que je veux parler, ce qui est important, c'est que lors de sa tournée, Daniel Craig de promotion pour ce film-là, il est passé au show de Stephen Colbert et Stephen Colbert lui a posé en terminant un peu devant tous les fans. Je pense que lui aussi c'est un vrai fan. Il a demandé si on pouvait compter sur son retour pour le rôle connu à travers le monde, la planète entière, James Bond, l'agent 007. Et Daniel Craig a confirmé qu'il reviendrait pour son cinquième mandat en tant que l'agent James Bond.
Daniel Craig, will you return as James Bond?
Yes.
Thanks so much. Daniel Craig, everybody!
Ça va être le James Bond 25 qui n'est pas encore de titre, que le film devrait sortir pour 2019. Et on peut vraiment, pour l'instant, on peut arrêter de chercher qui va jouer l'agent James Bond pour le 25e film. C'est Daniel Craig, c'est confirmé par lui-même. Donc, moi, je suis très, très content, je l'ai parlé parce que je trouve ça vraiment intéressant. Pour moi, ça reste tout de même Casino Royale qui reste le plus réussi dans les quatre films qui ont été faits jusqu'à maintenant. Je sais que le côté box-office et la majorité des gens préfèrent au-dessus de tous les autres films de James Bond, préfèrent Skyfall. J'ai vraiment pas aimé Skyfall, donc pour moi, James Bond, c'est l'agent qui va être capable de sortir de tout. Il y a les gadgets, il y a le côté un peu être capable de conquérir le cœur des dames. Excusez mon côté macho, mais pour moi, c'est ça, James Bond. Là, on a essayé de ramener un peu terre-à-terre, vraiment basic, pas vraiment de technologie. Et à un moment donné, j'étais en train de me demander si on voulait pas juste le faire marcher nu-pied sur des roches en feu tout le long du film, tellement qu'on voulait le mettre de bon niveau. En tout cas, j'avais pas trippé sur Skyfall. C'est pas mauvais, c'est un bon film, mais j'ai pas de valeur pour moi à réécouter ce film-là. J'ai quelques films de James Bond chez moi. J'ai pas des ensembles, des coffrets de collection, mais mon préféré, pour vous donner une idée, là, c'est vraiment Casino Royale. Et après ça, il y a eu trois autres films qui ont été, d'après moi, de moins bonne qualité. Et j'espère que ce cinquième film-là avec Daniel Craig, qui va être le 25e de la franchise, va être une réussite totale. J'ai beaucoup d'attentes envers ce film-là et j'aimerais tellement le côté fanservice, voir quelques autres acteurs qui ont déjà interprété James Bond, faire quelques caméos dans ce film-là pour célébrer le 25e film de James Bond. Ça serait, me semble, super cool. Une scène un peu, une genre de table de poker ou dans un bar où est-ce qu'il croise, mettons, Pierce Brosnan ou Sean Connery. C'est quoi de même? C'est tellement, tellement freaking cool comme scène de voir ça dans un film de James Bond. Anyway, fait que ça, c'est pour James Bond. Autre sujet que je voulais parler, c'était Obi-Wan qui est annoncé par Variety et Hollywood Reporter. Je connais des gens qui m'ont dit « Ouais, mais c'est pas confirmé officiellement par Lucasfilm. » Exact. C'est vrai, vous avez raison. C'est pas annoncé, c'est pas officiel. Mais c'est officieux. Si les gens de Hollywood Reporter et Variety ont sorti cette annonce-là, il y a une raison. C'est que ça va se passer, ça va être annoncé officiellement, ça va être fait dans de la bonne façon par Lucasfilm, bien sûr. Mais ces deux entités-là, en tant que médias à Hollywood, sont considérées comme des bibles. C'est des bibles de l'information pour le milieu du tournage cinématographique américain. Si Variety et Hollywood Reporter ont sorti les nouvelles par rapport au fait qu'il y a bel et bien des négociations pour un réalisateur et pour un film qui va faire se concentrer sur le personnage de Obi-Wan Kenobi. Faut mettre un vieux deux pièces là-dessus que ça va se passer. Oui, ça va être certainement annoncé par Lucasfilm. Très bientôt, je suis pas mal sûr. Je serais même pas surpris d'ici la sortie de The Last Jedi qu'on va vraiment une confirmation de ça. Ça tardera pas, là. Ça sera pas, ça prendra pas un an ou deux avant d'avoir une idée de ça. Fait que oui, Obi-Wan Kenobi. Bien hâte de voir ça, bien hâte de voir ça. J'ai l'impression que ce qu'ils vont faire, ce qui serait logique, c'est que ce film-là va se passer, bien sûr, entre l'épisode 3 et, là maintenant on doit dire, entre l'épisode 3 et Rogue One, parce que l'épisode 4, c'est après Rogue One. Donc j'ai vraiment l'impression que ce film-là va se passer avec... Ewan McGregor qui devrait jouer le personnage principal, j'espère. J'espère qu'ils vont pas chercher un autre acteur. Et puis... je pense que ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir un peu... tout dépendant de ce qui va se passer dans The Last Jedi avec le personnage de Rey, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent au fait qu'il y aurait peut-être un lien parental avec Obi-Wan Kenobi, que Obi-Wan Kenobi serait un peu comme son grand-père. Donc, on aurait peut-être un peu un clin d'œil par rapport à cette situation-là, où est-ce qu'il y aurait un genre de pont, un lien fait entre le prochain film de Obi-Wan Kenobi et ce qui se passe dans la nouvelle trilogie de Star Wars avec... The Force Awakens, The Last Jedi et le troisième ou l'épisode 9, si vous préférez. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est pour Obi-Wan Kenobi. J'ai très, très hâte. Je sais que d'ici là, on a épisode 8 de The Last Jedi qui s'en vient à la fin 2017. Après ça, pas longtemps après, je pense que c'est 6 mois après, on a l'été 2018. Excusez-moi, je pense que c'est au mois de mai 2018. On a le film de Han Solo qui a eu son bagage de problèmes de tournage avec deux réalisateurs qui ont transformé le film en une genre de comédie poche. Il y a eu de la mésentente avec Kathleen Kennedy qui est la big boss de Lucasfilm maintenant. Bien hâte de voir ce qui va arriver avec Han Solo. Et après ça, en 2019, là, c'est là que ça va être long parce qu'il va falloir attendre plus d'un an pour pouvoir voir l'épisode 9 de qui va être un peu la conclusion de la nouvelle trilogie de Star Wars avec Kylo Ren, avec Rey, avec Finn, avec Poe Dameron, tous ces personnages-là qui ont amené depuis The Force Awakens, qui vont avoir à eux leur conclusion, et là vous voyez pas, mais j'ai entre guillemets, je voudrais dire, leur conclusion pour la nouvelle trilogie de Star Wars. Fait que ça, j'ai bien hâte de voir ça. Là, je suis en train de chercher sur mon Facebook vite, là, je vais vous répondre à ça, ça sera pas long. Où est-ce que c'est? J'avais... Bon, alors j'ai Sébastien Trottier qui est éditeur en chef du site web Ciné Techno et avant ça aussi connu sous le nom de Actualité DVD. Salut Sébastien, en passant. La question est celle-ci. Quel est ton film de super-héros à venir que tu as le plus hâte de voir? Alors Sébastien, voici, je sais que, j'imagine que tu dois parler pour 2017, 2018 peut-être même, là, mais c'est surtout pour 2017, il reste deux gros films de super-héros. Cette année, on a eu des super bons films avec Wonder Woman, avec Logan aussi, même Guardians of the Galaxy Volume 2, Spider-Man Homecoming. Et là, d'ici la fin de l'année, surtout au mois de novembre, il y a deux gros films qui s'en viennent, il y a Thor Ragnarok, qui est le troisième film de Thor. Et aussi Justice League qui va rassembler les personnages de Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Commissioner Gordon. Il y a plusieurs autres personnages aussi qui vont se battre contre des méchants envahisseurs. Alors, lequel de ces deux films-là j'ai le plus hâte de voir? Ça serait, je vous dirais surprenamment, Justice League. C'est comme si je vous dirais Thor Ragnarok, je sais que ça va être écœurant. Je sais que ça va être écœurant, je sais que ça va être une heure et demie, deux heures de film qui va passer comme un bonbon, qui va être super le fun, puis que je vais triper, puis que ça va être écœurant, puis que je vais même avoir bien du fun. Mais celle que j'ai vraiment le plus hâte de voir, c'est Justice League. Il y a eu une tragédie, je vous dirais. Une des filles de la famille Snyder s'est suicidée en début d'année. Ça a troublé Zack Snyder, bien sûr, le père qui est réalisateur justement un peu le créateur de toute cette univers cinématique-là de DC, ce qu'il appelle le DCEU, le DC Expanded Universe. Alors, là, ils ont été chercher Joss Whedon, qui, lui, a réalisé déjà plusieurs séries télé populaires, dont Buffy et aussi Firefly, mais qui a surtout réalisé les films de Avengers et Avengers Age of Ultron, deux méga films très, très populaires qui ont plu aux fans de personnages de bande dessinée, bien sûr. Alors, Joss Whedon qui va comme compléter la réalisation de ce film-là, qui va... lequel des deux looks va vraiment être le plus important à ce film-là, je sais pas, parce que c'est ça qui crée mes attentes élevées pour ce film-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner comme résultat final avec Justice League, avec ces personnages-là. Et je trippe pas trop sur le produit fini de Zack Snyder par rapport à l'univers de DC. Fait que j'ai hâte de voir avec l'ingrédient de Joss Whedon rajouté à Zack Snyder ce que ça va donner. Je veux dire, c'est plate que Zack Snyder ait dû se retirer pour des causes aussi tragique que ça. C'est intéressant de voir que DC a été chercher Joss Whedon pour continuer la production de ce film-là, mais en même temps, tu sais, on prend un recul en réalité, puis je vous dirais, écoutez, on va avoir un film de Justice League avec des personnages comme Batman, Superman, puis ça va être réalisé par Zack Snyder et Joss Whedon. Tu sais, mettons là, que je vous prépare ça, puis je vous présente ça là, tout dans un bel enrobage doré, dans un petit panier en or, là, tout le monde capoterait. Fait que d'après moi, c'est une très très bonne nouvelle de voir que ces deux réalisateurs-là vont se compléter pour pouvoir faire un film aussi... épique, d'après moi, que va être Justice League. Oui, ça a l'air qu'il y a eu beaucoup de rumeurs par rapport à des nouvelles scènes de tournée ou whatever, tout, mais moi, ce que je veux voir, c'est le produit final. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça m'intéresse énormément. Alors, oui, Thor Ragnarok, ça va être bien fun. J'ai bien hâte de voir ça, mais j'ai vraiment beaucoup plus hâte de voir Justice League par rapport à ce que ça va donner comme produit fini. J'ai une autre question aussi qui vient de Benoît Vincent Rock. Benoît Vincent, qui est collaborateur avec nous sur Cinemaniacs, qui fait aussi ses capsules vidéo de Les enfants de 40 ans. Salut Ben, salut Tree Walker, son autre nom. Pourquoi conserver l'importance du matériel source quand il y a un revamp ou qu'il y a un nouveau projet à venir? Exemple, Venom, New Mutants, X-Force, etc. Pourquoi conserver l'importance du matériel source? Je dirais que c'est pas... tout dépendant le projet, Benoît. Mon point de vue à moi là-dessus, ça serait que si tu fais un film comme Thor Ragnarok, disons, on va revenir à ça, tu peux prendre des éléments qui vont venir de diverses sources, puis monter une nouvelle histoire qui va amener du nouveau pour les gens qui vont aller voir le film. Si tu prends tout le temps les choses exactement comme il était dans la source d'origine, exemple les bandes dessinées, ben, le spectateur va aller au cinéma et il va... Tu vas juste voir ce que tu savais déjà qui allait arriver. T'as pas vraiment de surprise. Tandis que ce que je trouve très, très wise de Marvel Studios, c'est qu'exemple comme Thor Ragnarok, ben, ils vont prendre des éléments de Planet Hulk, des éléments de Thor Ragnarok, et un peu aussi une présentation de ce qui s'en vient avec les Avengers Infinity War. Puis ils font un melting pot là-dedans, même avec... je pense que même ça va finir avec les Gardiens de la Galaxie, qui va être mélangé là-dessus. Fait qu'on prend plusieurs ingrédients, plusieurs sources, plusieurs matériels de sources différentes, puis on en fait un film. Fait que ça fait une façon de monter les choses comme du monde. Puis de l'autre façon, il y a des choses qui sont très, très dangereuses dans ce côté-là, où est-ce que, exemple, Venom, dans ta question, tu parlais de Venom, New Mutants et X-Force. Bien, du côté cinéma, si on parle X-Force, je pense qu'il faut qu'ils prennent leur temps pour pouvoir monter ça. Je pense que c'est logique que New Mutants sort avant, puisque dans les bandes dessinées, New Mutants est l'équipe qui est devenue X-Force à l'arrivée de Cable, Deadpool, Domino, Shatterstar, tous ces personnages-là. C'est des personnages que je connais très bien parce que c'était dans le temps que je lisais beaucoup de bandes dessinées. Fait que ça m'intéresse beaucoup. Mais en même temps, le backstory, toute l'histoire en arrière des personnages, exemple comme Cable, qui est un personnage qui a été cloné, qui a été transporté dans le futur pour guérir une maladie, c'est tellement long que tu pourra pas rendre justice à l'historique, à la source, terrelle source du personnage Cable pour pouvoir le transférer au cinéma. T'as pas le temps. 2 heures, t'auras pas le temps. Tu vas perdre ton auditoire en essayant de tout expliquer ça en même temps. Fait que d'après moi, là, faut que tu triches. T'as pas vraiment le choix. Si en même temps, t'es capable de garder les caractéristiques qui définissent très bien le personnage de Cable, je pense que les fans vont comprendre pourquoi on a coupé dans le gras un peu pour pouvoir présenter le film au cinéma. Venom, par contre, il y a un autre côté qui je trouve weird là-dessus, c'est que Sony, eux autres, ils vont comme tricher un peu. Je sais pas. Ce qu'ils disent, c'est que les personnages qui vont être amenés au cinéma par Sony Pictures, exemple Venom, Carnage, Silver Sable, Black Cat, vont faire partie de l'univers de Spider-Man, interprété par Tom Holland. Mais vont pas faire partie de l'univers cinématographique de Marvel. Autrement dit, c'est comme si on ferait deux cercles, deux enveloppes, avec l'univers de Marvel et l'autre avec l'univers de Sony. Et Spider-Man, lui, va être capable de traverser entre les deux. Mais ces deux univers-là vont jamais coexister ensemble. Comment ils vont gérer ça, je sais pas. Je sais que ce qu'ils veulent faire avec Venom, c'est un film rated R avec Tom Hardy. Il parle des rumeurs que Carnage va être là-dedans, ça va être très très violent. Donc en même temps, il y a quand même un côté logique où est-ce que tu veux quand même pas mettre un personnage, un ado de 14, 15, 16 ans qui joue Spider-Man, se battre contre des assassins qui tranchent les gorges de monde puis qui lui ouvrent le ventre puis whatever. C'est comme une logique là-dedans. Mais en même temps, c'est comment qu'ils vont être capables de convaincre l'auditoire que tous ces personnages-là existent d'un certain point de vue dans le même univers, dans la même ville de New York, où est-ce que il y a des Avengers qui restent dans le Avengers Towers, que Spider-Man se promène dans la ville, que Venom est du monde, whatever. Ça va être un peu dur pour ça. Fait que, Benoît, moi, mon point de vue à moi, c'est tout dépendant le matériel sur, justement, et tout dépendant aussi le médium où tu vas présenter le personnage, que ce soit un film de deux heures. T'sais, exemple, si tu fais une série télé de Cable, sur HBO, sur Netflix, avec plus de budget que Defenders, j'espère. Mais tu prendrais Cable et tu le mettrais dans une série télé. Là, tu aurais le temps de pouvoir, exemple, commencer l'épisode 1 avec Scott Summers et qui donne, mettons, son enfant Nathan Summers. Je ne me rappelle plus du nom du personnage, mais la fille qui vient du futur, qui le punk, qui dit on peut guérir ton enfant, mais dans le futur, 4000 ans dans le futur. Après ça, tu aurais quelques épisodes, mettons, qui montrent comment lui a grandi dans le futur. Après ça, tu aurais des épisodes que lui revient dans le présent pour trouver ceux qui vont tuer Hope dans le but d'arrêter le je pense que dans l'éventuel c'était un des membres d'Avengers qui fait que Hope qui est la nouvelle mutante qui va sauver l'espoir des mutants sur Terre dans le futur meurt. Fait que le Cable revient dans le présent pour arrêter ce problème là. En tout cas, toutes ces affaires là, t'aurais le temps dans une série télé de faire ça, même son clone Strife aussi, t'aurais un paquet d'affaires là, mais pour un film, c'est autre chose. Alors là, je me suis tiré pas mal sur un paquet d'affaires différentes. J'espère que vous avez aimé le podcast. Je vais essayer un peu plus de trouver une genre de formule avec un temps précis pour pouvoir monter tout ça ensemble. Mon nom est Denis Lamière. Vous avez écouté My Big Fat Geek Podcast sur les sujets de Obi-Wan Kenobi, sur Defenders, sur James Bond et sur des réponses à des questions offertes sur la page Facebook. Si vous voulez me rejoindre, vous pouvez me rejoindre sur, bien sûr, le site web de Cinemaniacs.net, sur la page Facebook de Cinemaniacs, sur le compte Twitter, Instagram et même la chaîne YouTube. Là-dessus, passez une bonne semaine et au prochain podcast. Merci, au revoir.